Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 août, vous écoutez Charles Matin et je suis ravie de vous retrouver, d'autant que le programme est encore extrêmement riche ce matin. On va évidemment parler de la chaleur pour voir si les températures vont redescendre ou pas avec Anthony Kaczmarek. Il arrive dans un instant pour la météo. Et je vous attends évidemment au 32-16 ce matin. Mais on va aussi parler santé et la difficulté de trouver un médecin pour se faire soigner. 7 millions de Français vivent dans un désert médical et la situation s'aggrave. 20 millions de Français pourraient être concernés d'ici 5 ans. Une grande conférence aura lieu sur le sujet à la rentrée. Il n'y aura pas de tabou, a dit le ministre de la Santé. Alors, question ce matin sur RMC. Comment pallier aux déserts médicaux? Faut-il obliger les médecins à s'y installer? Vous nous dites au 32-16 sur Direct Studio et sur la page Facebook Les Matins d'RMC. Et puis j'attends vos témoignages évidemment. Est-ce que vous avez du mal à trouver un professionnel de santé du côté de chez vous? Combien de temps d'attente? Venez nous raconter. Reportage à suivre à 5h10. On va aussi parler des pénuries de personnel ce matin. C'est un problème qui pénalise de nombreuses entreprises cet été. Des bars, des restos, des hôtels et même le plus grand parc d'attractions d'Auvergne-Rhône-Alpes, obligé de fermer ses portes quelques jours par semaine en plein mois d'août. Vous y êtes confrontés vous-même, on attend vos témoignages là aussi. On verra que les saisonniers se montrent très exigeants en ce moment sur leur rémunération, sur leurs conditions de travail. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? On vous attend. Et puis il y aura aussi tous nos rendez-vous, la story sport juste après le journal de 5h30, l'été d'Angèle à 5h50 ce matin. Elle vient avec son tournevis, tiens, elle veut nous convaincre de faire du bricolage pendant les vacances. J'ai hâte de l'entendre. On va aussi jouer à la voix du jour, juste après le journal de Marguerite. Mais pour l'heure, c'est le moment de faire un point sur la météo avec toi, Anthony Kaczmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
J'espère que tu nous apportes une bonne nouvelle. Est-ce que ce sera plus respirable aujourd'hui?
Alors oui, mais uniquement sur le nord-ouest, sur la côte atlantique, grâce à quelques averses qui seront localement orageuses et qu'on retrouve déjà ce matin des Pays de la Loire à l'Île-de-France. Fortes averses même actuellement du côté de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Orne. Dans l'après-midi, ces averses vont se décaler vers le nord-est et puis quelques éclaircies vont revenir par la Manche après les quelques grisailles matinales. Toujours beaucoup de soleil en revanche du sud-ouest jusqu'au nord des Alpes. Quelques averses toutefois en fin de journée sur les Alpes du Sud et sur les Pyrénées. Et puis les températures ont été torrides cette nuit. On est généralement au-delà de 20 degrés. Ce matin, il fait encore 24 actuellement à Paris. Et dans l'après-midi, toujours de 35 à 40 degrés dans les 26 départements en vigilance orange canicule du sud-ouest au nord-est. Mais donc la baisse s'amorce ailleurs avec 30 degrés à Paris, 28 à Lille et un bien agréable 22 degrés pour Brest.
Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. J'attends vos températures, évidemment. Sur Direct Studio. Merci beaucoup, Anthony.
Jeudi 4 août,
l'info sur RMC.
Enfin, la température qu'il fait du côté de chez vous, évidemment. Il est 5h. Bon réveil à tous. Ravi de vous retrouver sur RMC. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Dès la rentrée, une aide exceptionnelle pour ceux qui bénéficient des minima sociaux ou de la prime d'activité. Sénateurs et députés ont trouvé un compromis. Des cadavres de poissons dans une rivière à sec, conséquence de la sécheresse intense en France. Reportage à suivre le long de la Vienne. Et puis ce grand débat à la rentrée sur l'immigration. À la demande de la Première Ministre, le projet de loi est finalement reporté.
Dès la rentrée, une prime exceptionnelle sera versée à de nombreux Français.
Montant total de l'enveloppe, 1,1 milliard. Un accord a été trouvé entre les sénateurs et les députés hier dans le cadre des débats sur le pouvoir d'achat. Le vote final, une formalité, aura lieu cet après-midi. On vous en dit plus ce matin sur RMC. Bonjour Garance Munoz, qui va recevoir cette aide?
Eh bien, en premier lieu, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, c'est-à-dire les personnes qui touchent le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés, par exemple. Eux toucheront une prime de 100 euros, mais les travailleurs modestes éligibles à à la prime d'activité sont également concernés. Ils toucheront aussi une prime. Reste encore à déterminer le montant exact. Autre sujet qui a fait l'objet d'un compromis, la monétisation des RTT que le Sénat voulait pérenniser. Les entreprises volontaires pourront racheter les RTT des salariés prêts à travailler plus jusqu'en 2025 finalement. Ces mesures complètent un premier volet adopté hier qui comprend notamment le triplement du plafond de la prime Macron, l'augmentation de 4% des pensions de retraite et la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé.
Merci beaucoup Garance et j'ajoute que dans un tweet hier, Emmanuel Macron a salué le travail des élus et celui du gouvernement. C'est le quotidien de nombreux concitoyens qui va être amélioré, a ajouté le président de la République. Le report du projet de loi immigration, le texte sera remplacé par un grand débat, annonce du ministre de l'Intérieur à nos confrères du Figaro ce matin. C'était à la demande de la première ministre Gérald Darmanin qui explique également que l'immigration clandestine est un de ses dossiers prioritaires de l'été. Il a écrit aux préfets pour leur demander de renforcer les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière et en particulier ceux connus pour troubles à l'ordre public.
RMC 5h02, la canicule acte 3, dernière journée de grosse chaleur aujourd'hui.
Avant l'acte 4, ça va mieux quand même aujourd'hui. Anthony nous l'a dit, quelques entr'actes évidemment, mais il va faire très chaud au moins jusqu'au 15 août. Conséquence, toute la France est concernée par la sécheresse persistante. 60 départements sont placés au plus haut niveau d'alerte. Quand on voit l'état de certaines rivières, on comprend vite pourquoi dans la Vienne, plus d'eau et plus de poissons. Le reportage d'Emeric Dantreuil.
Au fond du lit de la Palue, Brice Novoselski, agent de la Fédération de pêche de la Vienne, observe avec tristesse les dernières flaques d'eau qui restent de la rivière.
T'es mort depuis belle lurette, ouais. C'est insupportable, quoi. Je pêchais régulièrement cette rivière et là, c'est foutu pour 10 ans.
Au sol, parmi les mouches, des cadavres de poissons. En quelques semaines, 1000 km de cours d'eau se sont taris dans la Vienne, conséquence de la sécheresse, mais aussi de l'activité humaine.
On a un gros impact. C'est l'irrigation agricole qui continue à faire du maïs à tout va. Mais là, on est rattrapé par le réchauffement climatique et on se retrouve à marcher dans la rivière comme dans un chemin de randonnée.
Pour le pêcheur, il faut vite changer la politique de gestion de l'eau.
Le modèle agricole va devoir se remettre en question. Il va falloir miser sur des semences résistantes à la sécheresse, plus sur les cultures d'hiver comme le blé. Si cette année, il n'y a pas de prise de conscience, quel coût ça va avoir de mettre en péril comme ça nos ressources d'eau potable.
Pour la première fois, cette fragilité des cours d'eau impacte toute la France, assure Claude Roustan, président de la Fédération nationale de la pêche.
Il ne faut pas que les milieux aquatiques soient la variable d'ajustement dans les mesures qui sont prises. Il faut que tous ceux qui sont consommateurs d'eau, agriculteurs, industriels, prennent conscience que la ressource ça va manquer dans l'avenir.
En moyenne, il faut 10 ans pour qu'une rivière à sec retrouve pleinement sa population aquatique.
Emeric Dantreuil pour RMC. Le choc à Bergerac en Dordogne après plusieurs explosions sur un site classé Céveso. C'était hier après-midi. 8 personnes ont été blessées, dont une grièvement. On ne connaît toujours pas les causes de l'accident. Ce que l'on sait ce matin, c'est que le pire a été évité. Les riverains de cette usine d'explosifs ont eu très peur, Maxime Lévy.
Il est 13h50, Enzo s'absente de l'usine pour aller chercher de l'eau. Il passe le portail, marche quelques mètres, et là, tout explose derrière lui.
Vous voyez les morceaux de briques partir dans tous les sens, les bouts de verre, les fenêtres. Franchement, ça fait peur. J'ai même vu la bulle d'air, en fait, je me suis dit, oh, on voit ça que dans les films ou dans les dessins animés, mais en fait, non, tu la vois vraiment. C'est le choc, c'est l'onde de choc, en fait, qu'on voit.
8 ouvriers de l'usine sont blessés, l'un d'entre eux dans un état grave. Il a tout de suite été héliporté jusqu'à l'hôpital de Bordeaux, explique Jean-Charles Jobard, le sous-préfet de Bergerac.
Les personnes qui ont été les plus touchées étaient plutôt celles qui étaient à l'extérieur. L'explosion a créé des projections et donc les plaies ouvertes en général sont plutôt sur les pourtours du bâtiment qu'à l'intérieur.
À l'origine de l'explosion, le nitrocellulose, une matière présente dans les explosifs aussi bien civils que militaires. L'usine qui en produit n'en contenait heureusement qu'une petite quantité selon le sous-préfet.
Nous avons eu quelques fumées. Comme nous avons très peu de vent, elles se sont plutôt déportées du côté de la rivière Dordogne, loin des habitations. L'eau pour éteindre les incendies peut être chargée un petit peu en nitro, mais elles sont dans des bassins de contenance à l'intérieur du site, donc il n'y a aucun risque pour le voisinage ou pour la rivière Dordogne.
Alors l'explosion est-elle due aux fortes chaleurs, à un choc ou une malveillance? L'enquête de la police scientifique devra y répondre.
Témoignage, explication recueillie par Maxime Lévy pour RMC. À l'international, Nancy Pelosi a quitté Taïwan hier après-midi. 24 heures de déplacement qui ont déclenché la fureur de Pékin. Comme annoncé hier, l'armée chinoise va mener à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche une série d'exercices militaires dans plusieurs zones autour de l'île de Taïwan. Et aux États-Unis, l'État très conservateur du Kansas a décidé de protéger le droit à l'avortement. Les électeurs ont voté hier. Le scrutin avait valeur de test avant les élections de mi-mandat prévues cet automne. Je vous le rappelle, en juin dernier, la Cour suprême supprimait ce droit fédéral.
Retour en France, on s'intéresse ce matin à ces plongeons sauvages à Marseille.
Le saut est grisant, mais très dangereux. Ils sont nombreux à tenter le coup depuis la corniche Kennedy dans la cité phocéenne. Dès 2006, la mairie a interdit cette pratique, mais rien n'y fait. Les jeunes continuent de plonger. Clémence Fournival les a rencontrés.
Sur les rochers, à 9 mètres de hauteur, maillot de bain et basket au pied, Léo et ses amis férus de plongeon enchaînent les sauts.
J'essaie de venir le plus possible parce que ça me détend en fait, c'est clairement trop bien. Par semaine, peut-être 2-3 fois.
À quelques mètres, le spot le plus populaire mais aussi le plus dangereux avec ses roches à fleur d'eau. Un saut de 15 mètres qui ne fait pas peur à Evan qui plonge en salto arrière.
Je regarde pas trop les accidents parce qu'il y en a partout. En voiture, en moto, donc si on commence à regarder les accidents, on fait plus rien.
Plonger est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 €, mais il en faut plus pour stopper Noé, 16 ans.
Franchement, je m'en fous, tant que c'est la passion, c'est pour s'amuser. Après, il y a les flics qui mettent une amende, genre, c'est pas grave, au pire, je paye.
Alors, depuis des années, des médiateurs sont présents pour essayer de raisonner ces jeunes. Pour Nourdine Bourkrine, directeur de l'association Dunes, il faut continuer le travail sur le terrain.
La prévention est pour moi la première des réponses. Déjà, prendre contact avec eux, et ils acceptent la discussion. Et ça, c'est un premier pas. Mais en tout cas, nous, on leur rappelle qu'il y a eu des accidents, des gens qui sont morts, des gens qui sont tétraplégiques. Et donc, le risque existe.
En juin dernier, lors d'un saut, un homme de 42 ans a perdu la vie.
Depuis Marseille, Clémence Fournival pour RMC. Si vous croisez un beluga dans la Seine, surtout ne l'approchez pas, c'est le message des autorités. Cet énorme cétacé n'a rien à faire là. Il vit normalement dans les eaux arctiques au Canada. Les autorités le surveillent. On ne sait pas comment il s'est retrouvé dans ces eaux douces. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas le stresser. Il devrait être pris en charge, aidé. Voilà. En tout cas, c'est pas du tout normal qu'il soit là.
Donc ah non,
le beluga,
c'est ce que je me disais,
ne doit pas aller très bien, Anaïs.
Merci beaucoup. On verra, on prendra des nouvelles.
On prendra des nouvelles du beluga.
Bah évidemment. Merci beaucoup Marguerite, on te retrouve dans moins d'une heure avec toute l'équipe. C'est l'heure de jouer à la voix du jour.
RMC,
la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de remporter des jolis cadeaux. Je vous rappelle le principe, c'est simple. Je vais vous passer un extrait d'une personnalité et si vous reconnaissez, vous faites le 32-16, écoutez.
Hier, j'ai posé une question sur la variole du singe. Au moment où j'évoquais la honte que subissaient les patients, Monsieur Aurélien Pradier s'est exprimé. C'est surtout une honte pour les singes. Je demande à ce qu'il y ait des excuses publiques et que le cas soit étudié.
Alors, je vais vous donner quelques indices tout de même. Elle est députée féministe. Elle était candidate à la primaire écolo, elle a perdu, mais elle a fait quand même un résultat tout à fait honorable. Elle a demandé des excuses, vous l'avez entendu hier, un député l'accuse d'avoir tenu des propos homophobes. Je vous en dis pas plus. Si vous avez reconnu la voix du jour, c'est simple, vous faites le 32-16 et vous pourrez repartir avec un sac de plage et une crème protectrice de la marque Kirines. Bonne chance à vous. Dans un instant, à suivre sur RMC, on va parler des déserts médicaux parce qu'une grande conférence sur le sujet va s'ouvrir à la rentrée. 7 millions de Français vivent dans un désert médical, 7 millions de Français qui ont du mal à avoir un rendez-vous pour se faire soigner. C'est peut-être votre cas. Venez témoigner au 32-16 et on en débat dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Il est 5h10, vous êtes sur RMC. Faut-il obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux ?
C'est la question du jour sur RMC.
12% des Français vivent aujourd'hui dans un désert médical. 7 millions de personnes qui ont du mal à trouver un professionnel de santé situé à côté de chez eux pour se faire soigner. Et c'est pas fini. Avec les départs en retraite, ce chiffre va forcément augmenter. En tout cas, si rien n'est fait, l'exécutif le sait. Et une grande conférence doit avoir lieu sur le sujet à la rentrée. Il n'y aura pas de tabou, dit le ministre de la Santé. Alors justement, on va ouvrir le débat ce matin. Quelles solutions pour y faire face ? Est-ce qu'il faut forcer les médecins à s'y installer après leurs études ? Pour Yann Le Baron, secrétaire général d'UNSA Santé, il faut passer par la contrainte. On n'a plus le choix.
On s'est bien rendu compte que les mesures incitatives ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient mal. À l'issue de ces études, il ne serait pas tout à fait illégitime qu'ils doivent soit des années de service public ou alors de dire effectivement vous pouvez aller vous installer en libéral, mais vous le ferez selon des conditions précises liées aux déserts médicaux et aux zones sous tension, liées à votre classement, comme c'est le cas pour d'autres cursus extrêmement complexes, longs, ardus, comme l'ENA, Normale Sup, Polytechnique. Soit effectivement les médecins s'inscrivent dans ce dispositif à imaginer, à penser, à réfléchir, et ils peuvent s'installer en libéral. Soit ils doivent un nombre d'années à la fonction publique, un nombre d'années qu'il faut déterminer avec les partenaires sociaux représentatifs des médecins.
Alors c'est vrai qu'on a déjà essayé la méthode incitative avec l'aide à l'installation pour les médecins qui donc s'installent dans un désert médical. Ils peuvent toucher jusqu'à 50 000 €. C'est pas rien. Plus de 2000 médecins ont déjà perçu cette aide. Mais le problème est toujours là. Les inégalités aux soins persistent. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin, carrément contraindre? 32-16, on vous attend ce matin. Luc Duquesnel, président, les généralistes CM, euh, SMF, lui, n'y est pas favorable et il s'en explique. Écoutez-le.
Dans ces zones, on veut les envoyer, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de banque, il n'y a plus rien du tout. Bien que fera ce médecin qu'on voudra obligatoirement envoyer dans ces zones-là, soit il décidera tout simplement de ne pas exercer la médecine, c'est quand même dramatique après 10 ans d'études, soit éventuellement il fera d'autres choix, il ira médecin salarié dans un hôpital, il ira médecin salarié dans un centre de santé. Il y a plein d'autres possibilités, quand on est médecin généraliste, que d'être médecin traitant. Finalement, ce seront des médecins en moins pour d'autres villes. Donc ce qu'il faut, c'est lui permettre de prendre en charge plus de patients sans travailler plus. Je prends l'exemple allemand. Un médecin généraliste, il travaille pas tout seul. Il a une secrétaire, il a une assistante médicale. Si aujourd'hui, la moitié des médecins généralistes français embauchaient un assistant médical temps plein, il prendrait 20% de patients en plus, il n'y aurait plus de patients qui recherchent un médecin traitant qui n'en trouveraient pas.
Faut-il contraindre ? Vous nous dites ce matin et surtout venez témoigner. J'ai envie de vous entendre sur ce sujet. Qui est concerné ? Quel est le délai du côté de chez vous pour obtenir un rendez-vous ? On vous attend. Avant cela, on va inaugurer ce matin un nouveau rendez-vous avec vous.
Les artisans de nos régions.
Eh oui. Jusqu'à la fin du mois d'août, on va vous faire découvrir des métiers méconnus, des professions ancrées dans les territoires. Vous savez que sur RMC, on y est énormément attaché. Ce matin, le cidre est à l'honneur. On va partir à la rencontre de ses producteurs, les cidriers, à Ducis-Sainte-Marguerite en Normandie. Et les pétriches font du cidre de père en fils. Alfred Ranche a ouvert quelques bouteilles avec eux. Le petit chanceux reportage.
Quelque part au milieu de ces 7000 pommiers, voici René, le patriarche, aux 87 cuvées.
Vous voyez les quantités de pommes ? Alors, il faut arriver à en faire tomber une partie.
Lui, c'est sa femme qui l'a complètement fait tomber dans les pommes, ou plutôt dans la pomme, à table, dans sa ferme familiale. Elle ne buvait que du cidre.
La tradition était bien connue en Normandie. Que boire de l'eau, c'était dangereux pour la santé.
Alors René a vu plus grand et a installé depuis 30 ans une cidrerie sur sa ferme.
Les pommes tombent dans ce premier bac.
Puis à l'automne, elles sont pressées dans d'immenses machines. Le jus est ensuite mis en cuve avant d'être embouteillé dans une chambre froide qui ressemble à un frigidaire géant. Après au moins 3 mois en cave, les bouteilles sont prêtes à être dégustées.
Voilà notre bouteille.
Et c'est Jean, le fils de René, qui prend la main. Santé, hein. Merci.
Chin-chin. Un extra brut, ça décoiffe un tout petit peu.
Après le premier confinement, il a décidé de rejoindre l'exploitation familiale pour prendre le relais de son père.
C'est ainsi donc un extra brut, un peu avec un peu d'amertume et qui va très très bien sur les huîtres.
L'association de goût est osée, mais le cidre de la famille Pétriche est reconnu et ce prestige, Jean compte bien le perpétuer.
J'ai l'énorme chance de l'importance de l'héritage que je reçois aujourd'hui en termes de compétences, en termes de réputation. On a un vrai savoir-faire qu'on a développé dans l'entreprise. On revient des concours de cidre de Caen. On a 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent.
Un succès que la famille partage volontiers. La cidrerie propose visite et dégustation tout l'été aux visiteurs.
Quel beau métier, hein. Tous les matins durant le mois d'août, on va essayer de mettre une profession artisanale à l'honneur. On était ravis de découvrir cette profession de cidrier ce matin. Si vous avez d'ailleurs des suggestions à nous faire, allez-y, j'attends vos commentaires sur Direct Studio. Je vous rappelle la question du jour, on parle des déserts médicaux parce qu'une grande conférence aura lieu à la rentrée. Pas de tabou, a dit le ministre de la Santé. Faut-il obliger les médecins à s'y installer ? Vous nous dites, on attend évidemment vos témoignages. Combien de temps pour obtenir, par exemple, un rendez-vous chez un ophtalmo ? Est-ce qu'il y a des généralistes juste à côté de chez vous ? Vous venez témoigner. L'autre sujet à la une ce matin, c'est le problème des pénuries de main-d'œuvre. En plein mois d'août, certaines entreprises ne peuvent pas travailler correctement alors qu'elles sont censées faire une partie de leurs chiffres cet été. Je pense aux bars, aux restos et même un parc d'attractions qui est concerné. Parc d'attractions, vous le verrez, vous l'entendrez tout à l'heure à 7h10, qui est obligé de fermer ses portes 2 jours par semaine en plein mois d'août. C'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son patron sera avec nous à 7h10. Tiens, Philippe nous appelle d'Andaille. Bonjour Philippe.
Bonjour tout le monde.
Je sais que c'est un problème qui vous concerne directement. Vous êtes boulanger, vous aussi. Vous le subissez.
Oui, tout à fait.
Ouais.
D'envie, surtout.
Manque d'envie, c'est ça le problème pour vous ?
Ah, moi, je pense que c'est le manque d'envie de travailler, manque de professionnalisme. Le salaire, oui, bien sûr, je pense que ça peut y jouer. Mais je trouve qu'il y a depuis le Covid plus trop d'envie de travailler et de faire les choses comme il se doit.
Ouais, manque d'envie et d'incitation à travailler. Vous l'avez dit, c'est assez important. Est-ce que il paraît que qu'en ce moment, du coup, certains en profitent pour demander plus de salaire et de meilleures conditions de travail. C'est normal, j'ai envie de dire, non?
Oui, non, mais bien sûr, on peut tout demander. Hein. Vous savez, on peut demander la lune aussi si on veut. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. Moi, j'ai une vendeuse qui s'en va, qui, comme je vous ai dit déjà il n'y a pas longtemps, j'ai une vendeuse qui s'en va dans 10 jours, elle s'en va en pleine saison. Bon, elle aurait pu faire 2 semaines de plus. Je la juge pas, mais bon.
Oui, mais voilà, c'est parce qu'elle change, elle change de boulot.
Oui, elle va faire
totalement.
Des études, soi-disant, mais c'est pas encore quoi. Donc, je sais pas, elle part à Bordeaux, donc elle sait pas. Donc, c'est la génération de maintenant.
Il y a une forme de découragement.
Pour moi, oui. Pour moi, je pense que là, vous voyez, je renouvelle même pas parce que je sais que sur là, il y a 4 boulangeries qui cherchent déjà des vendeuses. Donc, je me dis pourquoi je ferais moi une recherche de vendeuse en sachant que mes collègues déjà simplement en bas, ils ont du mal à trouver une vendeuse. Ah. Donc, oui, certes, c'est pas des salaires qui sont exceptionnels, mais je veux dire, on peut pas payer 1 800 euros une vendeuse.
Est-ce que vous-même, Philippe, vous avez essayé de faire un effort parce que c'est quand même des boulots compliqués.
Mais bien sûr, je fais un effort.
Moi, elles ont des horaires décalés.
Elles ont 2 jours de repos tous les 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une des deux qui travaille le dimanche. C'est moi qui fais la vendeuse avec eux le dimanche. L'autre dimanche, je fais avec l'autre vendeuse. Elles ont le dimanche, le lundi repos ou le lundi repos 1 semaine sur 2. Il y en a une qui travaille que le matin une semaine.
C'est normal d'avoir 2 jours de repos dans la semaine, non?
Ben, pourquoi normal? Où c'est normal? Où c'est écrit? Moi, j'ai qu'un jour de repos, et là, pendant la réalité, j'ai pas 2 jours de repos.
Mais Philippe, vous êtes patron.
Ah, mais voilà. Donc, moi, j'ai signé pour en chier. Mais voilà. Donc, je veux dire, moi, j'ai signé pour en chier, mais je dois signer aussi pour subir toutes les envies de chacun de personnel. C'est-à-dire que la personne qui a envie de prendre un jour de repos par-ci, par-là, sans me dire, tu sais, je prends un jour de repos. Je dois subir moi aussi ça. Je dis, non, moi, je dis stop. Je dis, à un moment donné, je veux avoir des gens qui ont envie de travailler.
Bien sûr, Philippe, mais je suis sûr que vous comprenez aussi qu'on a tous une vie.
Ah mais bien sûr, on a tous une vie. On a tous une vie de carrière aussi, de faire de 40 ans. Je veux dire, si à 20 ans, on réfléchit déjà de se dire je veux travailler que 35 heures, je veux pas faire plus tout le reste. Enfin, j'ai pas cette mentalité. J'ai 40 ans, ça fait 24 ans que j'ai commencé un apprentissage. Je veux dire, j'ai pas cette mentalité de me dire, t'es, je vais faire moins d'heures. Moi, j'ai mon beau-fils, le fils de ma compagne qui a 20 ans, qui a un apprentissage, il finit son apprentissage là. Il fait quasiment du 50 à 60 heures par semaine. Il touche plus que moi en salaire parce qu'il fait des heures supplémentaires. Et puis oui, il a envie de travailler. Et ça, vous voyez, il y a des jeunes comme ça qui donnent envie, ils se disent putain merde, ouais, il y en a quand même qui ont envie de travailler, il n'y a pas que des feignants. Je veux dire, oui, je veux bien comprendre que les gens qui ont envie d'avoir que 35 heures, et je le conçois et je le respecte entièrement, mais je veux dire, faites votre travail. Sur les 35 heures qu'on vous demande, faites votre travail avec envie. C'est tout ce que je demande, moi, l'envie. Envie d'avoir envie. C'est bizarre, il y a une chanson qui est comme ça.
On la connaît bien. Merci beaucoup, Philippe. Merci vous nous l'avez mis dans la tête, là, pour toute la journée. Merci aussi pour ça. Et passez une belle journée.
Bonne journée, bon courage, parce que je sais
que vous êtes au boulot. Bon courage. On a une autre réaction en 32-16. Yves nous appelle pour parler d'un autre sujet. J'en suis ravie. Bonjour, Yves.
Bonjour, belle Anaïs.
Oh, mais vous êtes charmant, Yves. Merci beaucoup. Merci. Yves, vous nous appelez de Sarge-le-Mans.
Sarge-le-Mans, c'est
Sarge-le-Mans.
Dans la Sarge, c'est ça. Allez, allez.
Ouais, dans la Sarthe, c'est ça. Ouais. Vous nous appelez pour parler des déserts médicaux. Hein. C'est notre grand débat ce matin. Oui. Est-ce qu'il faut contraindre les médecins qui viennent de sortir des études à s'installer dans les déserts médicaux pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins? C'est la question qu'on vous pose ce matin.
Oui. Je pense que l'incitation financière ou l'incitation, les communes font des gros efforts pour mettre à disposition
pour essayer d'attirer, oui c'est vrai,
des infrastructures, des locaux tout neufs, et cependant ça matche pas. Ça matche pas pourquoi? Parce que les médecins, ce sont des professions libérales, et dans libéral il y a libre. Mais c'est pas un sujet nouveau, parce que moi j'ai souvenir dans la Vienne, quand j'habitais encore chez mes parents, d'un très bon médecin qui était un copain, mais très bon, hein, puisqu'il avait plein de diplômes, etc., et qui a fait le choix plutôt de partir dans la médecine du travail comme salarié, pour pas être embêté, pour pas dire un autre mot. Voilà. Donc cette profession-là est libre. Et puis les petits villages où les villes modestes où il n'y a pas de commerce, très peu d'activités culturelles.
Ah mais ça c'est un vrai problème.
Ça leur donne pas
difficile
envie
de les attirer évidemment quand il y a rien pour les attirer évidemment s'il y a pas de commerce
mais
sur place.
C'est aussi valable.
C'est d'abord repenser le territoire avant d'essayer d'attirer justement les médecins. Vous avez raison. Question très concrète. Est-ce que vous y êtes confronté?
Oui, j'ai été confronté parce que j'avais un médecin de famille avec mes enfants. Je vais presque dire 35 ans de fidélité. En plus, c'était quelqu'un avec qui je jouais au foot. J'avais même son 06 perso. Et du jour au lendemain, paf, il est parti.
Ah oui.
Pour des raisons personnelles, bon, peu importe, il est parti en retraite.
Ouais. Et là,
je me suis retrouvé, comme on dit, le bec dans l'eau. Ouais. Et pour retrouver un autre médecin référent, ça a été la croix et la bannière. Ouais.
Voilà.
J'ai été obligé de faire la séduction.
Ah oui, carrément, bah, c'est tout le problème.
Auprès des assistantes pour essayer
de... Ah, carrément.
Non, mais enfin, la séduction, en tout
cas. Oui.
Non, je m'y suis pris à plusieurs fois.
Ouais,
et puis,
vous avez essayé d'être persuasif.
Ouais, j'en ai retrouvé un.
Ouais, preuve que c'est un vrai problème. Hein. De nombreux Français sont concernés. D'ailleurs, vous venez témoigner. Merci beaucoup, Yves, de nous avoir appelés ce matin. C'était un plaisir de vous entendre. Je vous souhaite une excellente journée sur RMC. Il est 5h23. Dans un instant, ce sera les Insolites de Quentin. À tout de suite. Il est 5h24, vous êtes sur RMC, on fait un point sur les principaux titres. Les parlementaires ont définitivement adopté le premier volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat concernant la prime de rentrée exceptionnelle que le Sénat voulait réserver aux travailleurs modestes et non aux minima sociaux, ce qui a suscité un tollé. Un compromis a été acté. Cette prime de 100 euros sera versée aux bénéficiaires des minima sociaux et l'accord prévoit aussi l'élargissement de l'enveloppe allouée afin que les bénéficiaires de la prime d'activité touchent aussi cette prime de rentrée. Laurent Jacobelli, et député RN de Moselle, réagit.
On ne comprend plus rien. Qui peut les toucher, qui ne peut pas les toucher. Certains, parce qu'ils dépassent le seuil de 1 ou 2 euros, ne seront pas aidés. Bref, il faut arrêter avec les aides pansements.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce le report du projet de loi immigration dont l'examen devait commencer au Sénat au mois d'octobre. Et puis les États-Unis ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. On y reviendra également. La météo avec toi, Anthony Kazmarek. Ça se rafraîchit un petit peu dans le nord-ouest. Hein.
Exactement, grâce à quelques averses orageuses qui gagneront aussi le Grand Est en cours d'après-midi. Puis dans le sud, toujours du soleil, sauf sur les reliefs où là aussi nous aurons quelques averses orageuses. Les températures donc perdent quelques degrés à l'ouest. On sera entre 21 et 31 degrés, mais encore souvent de 34 à 39 degrés dans les 26 départements en vigilance orange canicule du sud-ouest au nord-est en passant par la vallée du Rhône.
Merci beaucoup Anthony. C'est l'heure des Insolites de Quentin.
Les Insolites de Quentin.
Et tu nous parles ce matin du retour de Michael Keaton en Batman qui donnait envie, finalement, il n'aura pas lieu.
Et oui, c'était une triste journée hier pour tous les fans de cinéma. Alors les projets annulés, c'est fréquent hein, dans ce monde-là. Une idée de suite qui tombe à l'eau à cause de mauvaises critiques ou un résultat décevant au box-office font souvent réfléchir les studios avant de se lancer dans la production.
Ça va Quentin ?
J'avais juste besoin de tousser. Dans ces cas-là, l'idée est juste sur le papier, donc mis à part une grande déception pour les fans, ça ne coûte pas grand-chose au studio. Dans le cas du film Bad Girl, c'est un peu plus surprenant, parce que le tournage du film, dont le budget est passé de 75 à 90 millions de dollars à cause de la pandémie, était terminé. Il était même à son étape finale, la post-production. Cela devait être le retour de Michael Keaton en Batman et J.K. Simmons en Commissaire Gordon. Ça donnait très envie. Et finalement, on n'y aura pas le droit. Les interviews avaient même été données par les acteurs. Le film devait sortir en fin d'année sur la plateforme HBO Max. Et tout a été annulé hier.
Alors pourquoi ?
Alors plusieurs raisons ont été données. Alors maintenant, savoir lesquelles sont vraies... On ne saura peut-être jamais. On parle de projections test qui n'ont pas convaincu, ce qui arrive très souvent. Mais en général, ces projections servent à retravailler le film. On parle aussi d'une nouvelle stratégie suite à un changement de direction. Contrairement à l'ancien PDG de Warner Bros. Qui réfléchissait à des sorties streaming, le nouveau David Zaslav, lui, veut des films de super-héros taillés pour le cinéma. Il veut concurrencer Marvel et Disney. Et quand on parle de gros films, c'est des budgets qui peuvent atteindre 200 millions de dollars, voire plus. On est loin des 75 millions de base pour le film Bad Girl, qui paraît être une petite production.
C'est une question de sous, j'imagine. De rentabilité, c'est toujours ça.
Ouais, c'est ça. Bah, tout est pour l'argent. En fait, le film coûte trop cher pour être diffusé uniquement en streaming. Pour le monde du cinéma, il faudrait rajouter au minimum 50 millions de dollars pour la budget promo pour une sortie mondiale. Donc, on double le budget du film pour une rentabilité qui ne sera peut-être pas au rendez-vous. Les pontes du studio ont fait les calculs et pour eux, il est plus intéressant d'annuler tout simplement la sortie du film pour récupérer des taxes et déductions d'impôts si le film n'est jamais diffusé. C'est le moyen le plus sûr pour les producteurs de limiter la casse. C'est exactement ce qui s'est passé avec un autre film, Scooby 2, qui ne sera jamais diffusé. Triste décision pour les fans et surtout pour les équipes qui ont travaillé dessus pendant des mois.
Évidemment, on les comprend, surtout si c'est une histoire d'argent. Mais ne soyons pas naïfs. Merci beaucoup, Quentin. C'est l'heure de découvrir quel est le gagnant. Qui est le gagnant de la Voix du Jour ?
RMC,
la Voix du Jour.
C'est Samir, je crois, qui a gagné. Enfin, on va voir. Bonjour, Samir.
Bonjour, Anaïs.
Vous nous appelez de Paris, du 17e arrondissement. Vous pensez avoir reconnu la Voix du Jour. On la réécoute et on aura votre réponse juste après.
Hier, j'ai posé une question sur la variole du singe. Au moment où j'évoquais la honte que subissaient les patients, Monsieur Aurélien Pradier s'est exprimé. C'est surtout une honte pour les singes. Je demande à ce qu'il y ait des excuses publiques et que le cas soit étudié.
Alors, Samir, de qui s'agit-il ?
Il me semble que c'est la députée écologiste Sandrine Rousseau.
Ouais, députée NUPES, qui a demandé donc hier au député Aurélien Pradier de présenter ses excuses et qu'il soit sanctionné pour homophobie, pour donc ses propos tenus sur la variole du singe. On verra sa réponse puisqu'il est l'invité d'Apolline Matin à 7h40. Bravo Samir, vous avez gagné un sac de plage, une crème hydratante de la marque Kirinès pour vous, pour vos proches. Je vous laisse voir, évidemment, vous en faites ce que vous voulez et passez une excellente journée à l'écoute d'RMC.
C'est cool, merci beaucoup.
À très vite, Samir.
À bien.
Il est 5h29, vous écoutez RMC dans un instant. La météo suivie du journal. Oh, c'est pas vrai, c'est un running gag. Mais à chaque fois, je pense déjà à Stéphane qui est là. Merci. Bonjour Stéphane, bonjour, c'est l'heure de ton journal.
Bonjour
à la une ce matin.
Gérald Darmanin qui reporte son projet de loi sur l'immigration au mois d'octobre. Changement de calendrier demandé par la première ministre Elisabeth Borne. 3 semaines de débats acharnés et un accord. Le Parlement s'apprête à adopter définitivement le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Et puis la reprise de la Ligue 1. C'est demain et la saison sera interrompue par le Mondial au Qatar. Une coupure non sans conséquence.
L'examen du projet de loi immigration était prévu à la rentrée. Finalement, ce sera pour plus tard.
Annonce faite par Gérald Darmanin hier, le ministre de l'Intérieur qui a été contraint de prendre cette décision. Dans les colonnes du Figaro, il confirme qu'il s'agit bien d'un report et pas d'un abandon du projet. Un report que Gérald Darmanin explique par une demande de concertation faite par la première ministre en personne, Hélène Terzian.
Officiellement, ce n'est pas un recadrage de la part de Matignon. L'objectif, nous dit-on dans l'entourage de la Première Ministre, c'est de prendre du temps pour concerter avant l'examen du texte, d'où la décision de réviser la méthode. Mais en coulisses, c'est un autre son de cloche que l'on entend. Gérald Darmanin veut prendre de la place, Elisabeth Borne veut montrer que la chef, c'est elle, confie un député de la majorité présidentielle. D'autant que le sujet risque d'enflammer l'hémicycle, même un autre député Renaissance de sensibilité de gauche ne cache pas être soulagé de voir l'examen du texte reporté.
Alors concrètement, Hélène, quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi immigration ?
Le ministre annonce plusieurs nouvelles mesures dans les colonnes du Figaro. D'abord, faire en sorte qu'une décision d'éloignement soit prononcée dès le rejet d'une demande d'asile. Mais aussi que non plus 3, mais un seul juge soit chargé d'examiner les recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Et puis, comme annoncé la semaine dernière après l'attaque de policiers à Lyon, Gérald Darmanin veut lever certains freins qui interdisent l'expulsion des étrangers délinquants, le fait d'être marié ou encore d'être arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Enfin, les titres de séjour ne seront délivrés qu'à condition de bien maîtriser le français et de respecter les valeurs de la République.
Les précisions d'Hélène Terzian du service politique de RMC.
Un accord trouvé sur le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat.
Le texte a été validé par les députés et les sénateurs. Il devrait être adopté définitivement dans l'après-midi. Des mesures parmi lesquelles la monétisation des RTT jusqu'en 2025 ou encore le versement d'une prime de rentrée exceptionnelle. Une prime que le Sénat voulait réserver uniquement aux travailleurs modestes éligibles à la prime d'activité et non non aux minima sociaux. Un compromis a donc été acté. Cette prime de 100 euros sera versée à tous les bénéficiaires de ces minima. Mais en ce qui concerne celles et ceux qui bénéficient de la prime d'activité, d'après les indiscrétions de notre service politique, ce montant sera défini par le gouvernement. Et pour Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, toutes ces mesures au cas par cas, c'est à n'y rien comprendre.
Pourquoi faire simple hein, quand on peut faire compliqué ? On ne comprend plus rien. Qui peut les toucher, qui ne peut pas les toucher ? Certains, parce qu'ils dépassent le seuil de 1 ou 2 euros, ne seront pas aidés. Bref, il faut arrêter avec les aides pansement. Il faut réformer en profondeur notre système fiscal, le système de la TVA, notamment sur les énergies, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et puis agir sur les salaires. Ça, ça marche. Laissons le gouvernement faire ses usines à gaz. Je vais vous dire, si même quelques Français s'en portent mieux, c'est déjà ça. Mais objectivement, c'est pas la hauteur de l'enjeu.
RMC 5h34. Anthony nous disait que niveau température, ça s'améliorait aujourd'hui dans le nord-ouest du pays. En revanche, il va encore faire chaud sur l'est.
Et le pic de chaleur a été atteint hier à l'échelle nationale. C'est l'Alsace notamment qui subira cet après-midi ces températures élevées, avec notamment 37 degrés prévus à Strasbourg. Et on se penche à présent sur cette conséquence bien concrète de ces fortes chaleurs, la baisse de la production d'électricité dans la centrale nucléaire de Tricastin. C'est dans la Drôme. La raison, l'eau du Rhône est trop chaude. EDF envisage donc des restrictions. On y voit plus clair avec vous, Alexandra Sirgan.
Une centrale nucléaire se compose de turbines qui doivent être refroidies. Pour ce faire, on fait appel à l'eau des fleuves ou de l'océan qui l'entoure, et l'eau chaude utilisée est ensuite rejetée dans ces cours d'eau. Mais leur température est surveillée et chaque centrale a des limites réglementaires à ne pas dépasser. Depuis le mois dernier, certaines centrales ont eu droit à des dérogations, mais avec le dernier pic de chaleur, EDF pourrait être contraint d'arrêter un réacteur, celui de la centrale du Tricastin dans la Drôme. L'arrêt est une affaire de quelques jours et ne devrait durer que le temps de la canicule. D'autres centrales pourraient être concernées par des baisses de production. L'annonce tombe alors que le parc nucléaire français est déjà très fragilisé. 12 réacteurs sur 56 sont actuellement à l'arrêt pour des problèmes de corrosion.
En bref, 8 personnes, dont une dans un état critique, ont été blessées par plusieurs explosions sur les sites de la poudrerie Eurenco à Bergerac, classé Seveso seuil haut. C'était hier après-midi.
5h36, le foot, J-1 avant le retour de la Ligue 1.
Et ça reprend demain soir, première rencontre de la première journée Lyon-Ajaccio, c'est à 21h à suivre évidemment sur RMC. Une saison particulière qui attend les joueurs et les staffs, puisque la Coupe du Monde la coupera en deux, elle se déroule du 21 novembre au 18 décembre prochain. Alors vient cette question, évidemment, quel impact aura cette coupure ? Élément de réponse avec Nicolas Pelletier.
Une coupure de 44 jours entre novembre et décembre pour la Ligue 1. Ce calendrier inédit entraîne forcément une modification de la préparation physique des joueurs. Un vrai avantage pour Nicolas Bourriette, le responsable de la performance du Stade de Reims.
On a la chance de bien se préparer pour les 15 premières journées de championnat et d'avoir un autre temps pour une autre préparation pour justement les 23 restants. On peut faire un premier bloc, on va dire, de saison, voir où nous en sommes et une régulation, ce que j'appelle pour justement la seconde partie de la saison.
En novembre, il faudra surtout gérer la différence de préparation entre les joueurs internationaux et les autres. Pour les occuper, à Brest, Yvan Bourgis, le préparateur physique, a déjà tout prévu.
On a choisi de laisser 15 jours de repos aux joueurs et d'enchaîner ensuite sur 4 semaines et demie de préparation avec un stage à l'intérieur.
Les préparateurs physiques doivent souvent changer la routine de certains joueurs dans cette année particulière, sans le droit à l'erreur.
Comme toutes les phases après des prépas, on est un peu jugé, est-ce qu'on a fait du bon boulot ou pas du bon boulot. Donc, au lieu d'avoir un examen, on en aura deux.
Sans la coupure habituelle pour préparer la Coupe du Monde, un joueur sélectionné pour le mondial et qui joue la Coupe d'Europe avec son club pourrait enchaîner 60 matchs sur la saison. Un véritable marathon.
Les précisions de Nicolas Pelletier de RMC Sport.
On termine ce journal à la plage. Vous êtes évidemment nombreux à en profiter en cette période estivale et en cette période de canicule.
Hein, en plus, oui. Et même si vous avez cette chance, vous êtes peut-être confronté à un problème de poids, à savoir votre chien. Ah. Et oui, certaines plages ne tolèrent pas les animaux de compagnie. Alors, certains maîtres changent leur plan et font même de la route en plus, puisqu'ils décident d'aller faire bronzette sur des plages où leurs animaux à quatre pattes sont autorisés, comme à la Grande Motte sur la plage du Grand Travers, Lucille Pascanet.
Des dizaines de chiens jouent dans l'eau et sur le sable. Maëlys sort des vagues avec son malinois Seco.
Il est trop content dès qu'on arrive sur la plage, direct il court dans la mer.
Elle aussi est très heureuse de pouvoir l'emmener sur la plage.
Souvent les chiens sont refusés, donc du coup ils sont à l'emplacement parce qu'en ce moment on est au camping, donc ils font rien et ils sont en plein soleil, les pauvres. Là on vient les rafraîchir et puis en même temps nous on peut s'amuser avec eux quoi.
Yanis tient son Rottweiler en laisse, pas question non plus pour lui de partir en vacances sans son chien.
Il a droit à ses vacances aussi.
Et pour ça, il est prêt à faire des sacrifices.
La location, elle se fait par rapport au chien. J'ai payé plus cher pour prendre mon chien avec moi. Mais il n'y a pas le choix, et c'est très bien.
Les maîtres et les animaux ne sont acceptés que sur une portion de la plage. Et c'est déjà bien assez pour Lamia, qui vient d'avoir une mauvaise expérience en allant se baigner dans la mer.
On a trouvé des besoins de chien à l'intérieur. Donc non, ça c'est l'erreur. Que je nage et je trouve quelque chose à côté de moi, non. Je n'ai changé la plage tout de suite.
Elle est venue s'installer juste à côté de Sofia. Ici, pas de chien, et heureusement pour elle.
Je ne veux pas du tout être à l'aise. Je trouve que c'est un peu manque d'hygiène. Ils vont venir se sécher près de nous. C'est pas top.
Seulement 4 plages sont accessibles aux chiens dans le département de l'Hérault.
Le reportage de Lucille Pascalet.
On va pas rentrer dans les détails, hein, mais évidemment, on comprend qu'un chien qui fait ses besoins, là, c'est gênant.
Oui.
Mais en revanche, quel est le problème? Avoir des chiens sur la plage, moi, ça me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve ça plutôt sympa. Les courses à Deauville, c'est ça, en nocturne?
Absolument, 20h15 pour le départ. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est l'As Super Quali. Leur outsider, c'est le 3 Before Dawn, à suivre évidemment sur RMC Découverte.
Merci Stéphane, c'est comme ça?
Absolument.
À tout à l'heure avec toute l'équipe d'Apolli de matin. On retrouvera tout à l'heure évidemment Sébastien Krebs. C'est l'heure de la Story Sport. On vous emmène à Marseille.
La Story Sport.
Le mercato de l'OM au cœur d'une polémique. Les supporters du club sont vent debout. Ils s'opposent au recrutement du français Jordan Veretout. Et pas pour des raisons sportives. Cédric, bonjour.
Bonjour à tous. Oui, alors que son transfert semble en très bonne voie, le joueur de la Roma n'est apparemment pas le bienvenu. Veretout, not welcome. Un hashtag très populaire sur Twitter. C'est une vague d'indignation. Urba, par exemple, écrit « L'arrivée possible de Veretout me laisse un goût de cendre dans la bouche après avoir lu les articles et vu les vidéos sur sa situation familiale. »
Des mots évidemment extrêmement forts. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, ce joueur?
Ce n'est pas tout à fait clair. En tout cas, sur Twitter, il y a une vidéo qui circule beaucoup. C'est un extrait d'une émission télé « Crimes et faits divers » diffusée en juin 2021 sur Énergie 12. Jean-Marc Morandini raconte l'histoire de Rosalia, victime à 13 et 17 ans de viol et d'agression sexuelle par son père à Nantes. En plateau, la jeune femme rencontre Samy, son demi-frère, venu la soutenir.
J'ai lu les détails où elle avait été rejetée de sa mère, ses sœurs, qu'un avocat a été payé par un des joueurs du FC Nantes.
Or, Jordan Veretout a été joueur du FC Nantes. Son épouse, Sabrina, serait l'une des sœurs de cette Rosalia, la victime. Pour résumer, on reproche donc à Veretout d'avoir payé les frais d'avocat de son beau-père, qui a été condamné en mai 2021 dans cette affaire d'inceste.
Ah oui, face à ces rumeurs et à cette indignation des supporters, que disent les dirigeants de l'OM?
Ce mercredi, en conférence de presse, le président du club a répondu. Pablo Longoria défend Jordan Veretout et dénonce un tribunal populaire.
Je pose des questions. Il est condamné? Ça, c'est un réflexe de la vie actuelle. Les réseaux sociaux. Quelqu'un met en chose, tout le monde doit suivre. Juger populairement quelqu'un pour une supposition. C'est juste? C'est moralement acceptable?
Cette réponse peut-elle suffire à calmer la fronde des supporters? Ou, dans un été déjà chaotique, le club va-t-il finalement renoncer à recruter Jordan Veretout? Le milieu de terrain de 29 ans, lui, a semble-t-il déjà trouvé un accord avec l'OM. Le transfert de l'international tricolore pourrait être officialisé avant la fin de la semaine. L'accueil, vous l'avez compris, s'annonce pour le moins mouvementé.
Merci beaucoup Cédric, merci pour la Story Sport. On te retrouve évidemment demain ou en podcast sur l'appli RMC. Il est 5h42.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Et ce matin, on va s'arrêter sur RMC sur ce sujet qui va vous faire réagir, j'en suis sûre. Les pénuries de main-d'œuvre. Le problème est loin d'être réglé. C'est en train de pénaliser de nombreuses entreprises qui font une bonne partie de leur chiffre d'affaires durant l'été. Toutes celles qui travaillent dans le tourisme, évidemment. 200 000 postes sont aujourd'hui vacants dans l'hôtellerie et la restauration. En moyenne, ça représente 2 offres d'emploi non pourvues par établissement. Vous êtes concernés? Venez nous raconter, hein. Venez nous dire pourquoi vous n'arrivez pas à recruter. Est-ce que l'offre que vous faites aux saisonniers est suffisamment alléchante ou non? Parce qu'évidemment, hein, compte tenu de la situation, eh bien, ils sont plus exigeants. Reportage de Léna Marjac.
Stéphanie est devenue directrice de l'hôtel-restaurant Le Bel Angle dans les Pyrénées-Orientales en septembre dernier. Avant ça, elle était saisonnière.
J'étais payée au SMIG pendant 4 ans, j'ai pas honte de le dire. Je faisais des heures à outrance, j'ai jamais rechigné. Je commençais des fois le matin à 6h pour terminer le soir à 23h30.
Aujourd'hui, elle est outrée de voir les exigences salariales des saisonniers qui postulent dans son établissement familial.
Ils demandent 4000 euros, voilà. Et ils veulent être logés, nourris, blanchis pendant 3 mois pratiquement de saison. Donc ça fait un sacré budget pour une structure comme ça. comme la nôtre quand même.
Et ceux qui demandent tant n'ont pas l'expérience requise.
La plupart qui nous ont consultés, c'est des personnes qui ont, allez, on va dire 4 saisons à leur actif. Donc ça fait 2 ans de travail, 4000 euros, je veux bien, mais c'est au moins un chef étoilé ou quelqu'un qui se débrouille vraiment tout seul et qui vient de faire une super carte, quoi. Donc la plupart, ils ne sont pas autonomes.
À quelques centaines de kilomètres de là, même constat pour Karine Marot-Guffanti, gérante de plusieurs établissements à Nice.
Une fois qu'ils ont accepté le poste, ils disent « Ah oui, moi je viens travailler seulement si vous me donnez 3 500 euros net. » Ce n'est pas des salaires qui sont acceptables. On ne peut pas monter sous le prétexte de l'inflation des prix les salaires à vitam aeternam. Ce n'est pas viable pour les entreprises.
Elle dénonce un changement de mentalité.
Ils ont envie de travailler entre 15 et 16 heures du 12 août au 13 août en fait. Et être payé à 2000 euros net.
C'est ce que confirme Thierry Grégoire, président de la branche saisonnier de l'UMI.
On a les salariés aujourd'hui qui n'ont plus envie de faire tous les sacrifices. On travaille les week-ends, on travaille le soir, on travaille la nuit. Donc on a les salariés qui aujourd'hui ne veulent plus sacrifier leur vie personnelle. Ils veulent des équilibres dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Mais tous les saisonniers n'ont pas cette prétention. Mareva a 19 ans, elle est saisonnière dans un restaurant en Corse et elle ne compte pas ses heures en tant que commis de pâtisserie.
60 et 70 heures, je pense. Au minimum, je fais 10 heures par jour, un minimum. Je suis à 1800 euros net, logé, nourri.
Pour autant, le secteur évalue à 200 000 le nombre d'emplois de saisonniers vacants et certains établissements sont obligés de fermer plusieurs jours par semaine pour combler le manque de main-d'œuvre cet été.
Faute d'employés, le Grand Parc d'Andy ferme ses portes 2 jours par semaine, le lundi et le mardi, alors que la saison estivale bat son plein en Haute-Savoie. Son président sera avec nous à 7h10. Avant ça, j'attends évidemment vos témoignages. Au 32-16, venez nous dire ce qu'on vous demande, hein, si vous êtes employeur. Et si vous êtes salarié aussi, dites-nous si vous avez pu profiter de cette situation pour obtenir un meilleur salaire, de meilleures conditions, comme on vient de l'entendre. 32-16, on vous attend. Tiens, justement, Guillaume nous appelle. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
De Haute-Saône. Oui. Vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Chef d'équipe, c'est ça ?
Chef d'équipe dans une collectivité territoriale où on collecte de tri sélectif.
D'accord. Est-ce que, justement, dans votre secteur, vous êtes confronté aux pénuries de main-d'œuvre ou pas ?
Tout à fait. On cherche du monde parce que le tri sélectif, tout le monde sait que de plus en plus de déchets se valorisent. Donc, y a de plus en plus de travail. Il y a des travailleurs dont on ne connaîtra jamais. Covid et tout, on a travaillé, ça y a pas de souci, mais c'est pour trouver du personnel, que ce soit des chauffeurs ou des agents de collecte.
Quel est le problème ?
C'est une galère.
Quel est le problème justement ?
Le problème
de rémunération, d'incitation.
La rémunération, je pense pas, parce qu'on est quand même pas, on est quand même pas à plaindre dans notre collectivité. C'est le fait que les chômeurs, ils sont tellement aidés, comme je disais. Dans mon message, ils sont tellement aidés financièrement d'un point de vue social par le pays qu'ils seraient perdants à venir travailler.
Vous pensez qu'un chômeur gagne autant que vous, Guillaume ?
Celui qui débrouille bien, il veut bien se débrouiller pour avoir 1 200, 1 300 par mois, j'en connais.
Et c'est ce que vous gagnez ? C'est ce que vous gagnez, Guillaume ?
Non, moi je suis au-dessus. Je suis au-dessus parce que j'ai 12 ans d'ancienneté et voilà. Parce que depuis 14 ans je travaille. J'ai jamais connu de chômage. Mais quand vous voyez que les chômeurs, les loyers ils sont à prix très modéré,
oui,
voire
assez sûr.
La cantine ils payent pas, mais par contre c'est les travailleurs eux la cantine on va mettre un peu plus cher pour compenser le fait que celui qui travaille pas ne paye pas. À quel moment c'est normal ?
Est-ce que le problème, Guillaume, c'est pas avant tout que les salaires sont trop bas ? C'est-à-dire
qu'ils les salaires, je veux bien, mais si derrière vous augmentez les salaires mais que derrière la vie, le coût de la vie il augmente encore plus parce que les salaires ont augmenté, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est une chaîne sans fin après. Il y a un moment, le chômage, il faudrait qu'il y ait des limites.
Ah voilà. Oui, carrément.
Mais oui, il y a un moment, quand on propose des postes à 10 ans, et puis qu'ils disent, non, je ne suis pas intéressé, ou bien des personnes qui sont en intérim, et puis des patrons qui vont leur dire...
Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas au chômage par choix ?
Alors, ceux qui ne sont pas au chômage par choix, je ne pense pas que...
Ça peut nous arriver à tous, hein.
Je suis conscient, et notamment avec les problèmes financiers que les entreprises rencontrent, et les dépôts de bilan et autres, ça je suis d'accord, hein. Mais il y en a quand même une grande majorité qui se plaisent à rien faire en France, tout en sachant que derrière il y a les aides sociales qui tombent gratuitement à la fin du mois. Hein. C'est, après, vous l'envoyez au travail, il va avoir des frais de carburant, il va avoir des frais de voiture, des frais de gardien, de gardiennage.
Pour oui, non, mais c'est, camping, après, des... vous touchez du doigt un vrai problème. Le fait, alors moi, je le redis, que les salaires ne sont pas assez élevés, incitatifs, que le fait que le coût de la vie soit aussi cher, en effet, c'est un problème de se dire, non, moi, je ne peux pas prendre ma voiture pour aller au boulot parce que ça me coûte trop cher, je n'ai pas les moyens de payer un plein. Oui, ça aussi, ça joue.
Oui, non, mais d'accord, mais après, avant de demander des salaires mirobolants, faut déjà vouloir venir travailler et faire ses preuves. Moi, ça fait 12 ans que je travaille, ça fait 12 ans que je suis dans la collectivité. J'ai pas demandé des salaires mirobolants dès le début. Au début, on fait notre petit bonhomme de chemin dans notre coin, on fait nos preuves. Et puis,
c'est marrant, vous êtes jeune, c'est souvent les. On dit que c'est aujourd'hui, on dit que ce sont les jeunes justement qui sont comme ça. Vous pensez que c'est pas les jeunes forcément?
Il n'y a pas forcément que les jeunes, hein, et voilà. Mais il y a un moment, le chômage, il faut qu'il ait des limites.
Ouais.
Quand il y a un chômeur qui est dans une entreprise en intérimaire, alors une personne qui est en intérimaire dans une entreprise, que le patron lui propose un CDI et que l'employé dit non, je veux pas de CDI, je repars au chômage parce que sinon je perds mes droits sociaux, machin, et ben ça c'est pas normal.
Oui, voilà. Alors ça.
Mais ça se produit.
Ça se produit. Ah ben, on trouvera toujours des exemples, Guillaume. Voilà. Mais est-ce que c'est si fréquent que ça? Venez témoigner au 32-16. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Guillaume. Passez une très bonne journée et bon courage. Vous êtes au boulot là?
Ah oui, bah depuis 1h ce matin.
Depuis 1h du matin? Et bah beaucoup. Vous terminez à quelle heure?
Quand on aura terminé, ça dépend quand la tournée est terminée.
D'accord. Voilà. Ok.
Je fais des journées de 7, 8, 9, 10 heures, ça dépend.
Vous savez jamais quand se termine votre journée de travail?
Vous commencez. On commence à 4 heures. Là, on anticipe avec les fortes chaleurs pour que les agents de collecte ne souffrent pas trop quand même derrière. Mmh. Mais la tournée, on sait qu'elle fait tant de temps en moyenne. Mais si au milieu vous avez un problème mécanique avec le véhicule, vous avez plus de bac que d'habitude, si vous avez il y a plein d'aléas.
Des imprévus. Merci Guillaume et bon courage à vous. Passez une excellente journée. Il est 5h50. Dans un instant, on va retrouver Angèle qui est venue avec ses outils.
Oui, au moins.
Bonjour Angèle.
Effectivement, on va profiter un peu de l'été pour faire du bricolage. Moi, j'ai quelques.
Est-ce que ça s'appelle
YouTube?
Oui,
moi aussi, quand même.
On va en reparler. À tout de suite sur RMC. Vous êtes sur RMC, il est 5h52. Bon réveil à tous. Les parlementaires ont définitivement adopté le premier volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Ils sont parvenus à un accord sur le second volet de ces mesures et qui pourra être validé définitivement dès aujourd'hui. On y revient à 6h. Gérald Darmanin reporte le projet de loi immigration. L'examen du texte devait commencer au Sénat en octobre. Il sera remplacé par un grand débat sur le sujet dans les deux chambres au Parlement. Et puis les explosions qui ont retenti hier dans une poudrerie classée Céveso à Bergerac ont fait 8 blessés, dont un en état critique. La météo avec toi, Anthony Kazmarek. Ça ira mieux aujourd'hui dans le Nord-Ouest.
Grâce à quelques timides averses orageuses qui concernent ce matin les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Haute-Normandie, elles vont se décaler vers l'Est en cours d'après-midi. Mais au Sud, sauf sur les reliefs, le soleil va se maintenir et les fortes chaleurs aussi. On sera entre 35 et 39 degrés du midi toulousain jusqu'à l'Alsace et à la vallée du Rhône. Mais ailleurs, on perd 2 à 4 degrés par rapport à hier. 6 même à Paris, on aura entre 30 et 31 degrés. Un bien agréable 28 degrés pour Lille, 27 à Biarritz, mais ce matin, il fait déjà très doux partout. On est souvent au-delà de 20 degrés.
Merci beaucoup. C'est l'heure de retrouver Angèle.
L'été d'Angèle.
Rebonjour Angèle.
Bonjour.
Alors ce matin, tu vas nous parler de quoi? De bricolage.
Oui, c'est ça, parce que l'été, c'est aussi. Ce matin, on peut voir de quoi faire de nos mains, parce que le principe de l'été,
c'est pas quand même.
Par le temps. Vous savez, cette étagère pas posée qui traîne en dessous de votre bureau, ce mur blanc qu'il faudrait repeindre, ces outils qu'il faudrait nettoyer. Eh bien, si vous profitiez de l'été pour faire un peu de bricolage, pour ça, j'ai la solution, c'est YouTube. L'un des Français les plus connus s'appelle Robert Longchamp.
Vous êtes plusieurs à avoir le même problème et Irène formule la question ainsi: est-ce qu'il y a une technique sûre
pour percer du carrelage sans le casser.
Ah, Naïs.
Ah, bien sûr.
Alors, Robert Longechal a presque 400 000 abonnés sur YouTube. Il nous montre aussi bien comment souder, isoler. Voilà. Et ça tombe bien parce que le marché du bricolage a connu une sacrée croissance depuis le confinement. Et oui, le chiffre d'affaires en France a progressé de plus de 10% en 2021, atteignant 34 milliards d'euros quand même.
Ah bon, quand même. Alors, je sais pas, par exemple, que moi, je suis vraiment nulle en bricolage. Est-ce que vous avez d'autres, est-ce que tu as d'autres chaînes un petit peu ludiques qui pourraient m'aider à m'y mettre?
Oui, j'ai discuté avec Sylvie Pereira. Elle a bientôt 90 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, elle en vit. Et vous allez l'entendre, YouTube, c'est une mine d'or pour les amateurs de bricolage.
En fait, au début, je pensais que pour faire une chaîne YouTube, il fallait avoir des choses à enseigner jusqu'à ce que je comprenne que partager son expérience, c'est vraiment très, très enrichissant pour tout le monde. Dans ma chaîne, je montre ce que je fais, je détourne en fait des outils, je crée des outils également et j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à YouTube.
YouTube donc peut vous aider à vous lancer, toi aussi Anaïs.
Bah ouais, d'accord, ok. Si tu le dis, par quoi je commence?
Eh bien pour ça, Sylvie Pereira a quelques conseils.
Moi je conseille en fait peut-être de faire quelque chose dont on a besoin. Parce que quand on part comme ça, quand on a trop de liberté, on fait rien. Il faut d'abord avoir un projet et puis il faut acheter les outils qui vont bien, dont on a besoin pour ce projet-là. Et puis commencer par quelque chose de simple et quelque chose qui nous fait envie. Il ne faut surtout pas se regarder en se critiquant, en se flagellant, en disant « c'est nul ». Mais non, ce n'est pas nul, c'est le premier. Alors, est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que je me suis amusée? Est-ce que ça a réparé? Est-ce que c'est ridicule? Bon, est-ce que je peux faire mieux après? Si on se demande ce qu'on pourrait bien faire pour commencer à bricoler, ça veut déjà dire qu'on a envie de bricoler.
Voilà, donc un mot d'ordre. Oser, Anaïs, moi, il y a quelques années, je mettais encore de la peinture mur et plafond sur du sol dans deux salles de bain. Donc, tout est possible,
en fait. Je suis encore là, mais on en reparlera. Est-ce que Sébastien Krebs est bricoleur? Salut Sébastien.
Salut Anaïs, salut Angèle.
Alors, t'es venu avec ta caisse à outils?
La caisse à outils, alors moi, je suis très très nul, mais je suis entièrement d'accord, les petites vidéos sur YouTube, parfois, ça dépanne.
Eh oui, ça aide.
J'ai poncé un plan de travail la semaine dernière.
Ah, bah quand même, c'est pas ridicule. Bon, t'es pas fort pour le bricolage, mais t'es fort pour construire une émission.
Bah écoute, on va essayer de faire bien. Je vous attends, Anaïs, tu me rejoins, Angèle un peu plus tard, on reparlera bricolage tout à l'heure ensemble. Et je vous attends tous au 32-16. Apolline Matin démarre dans un instant. On va parler de nos difficultés à accéder aux médecins ce matin. À tout de suite.